Voici le troisième épisode de notre série dédiée à l'année 1960. Alors de quoi va-t-on parler ? De la fin du monde, qui est programmée pour le 14 juillet. D'un homme qui se retrouve face à un requin en Bretagne. Du premier athlète d'Afrique noire médaillé d'or au JO. Du concours qui est attribué à un sympathisant nazi. Et puis je vous ferai entendre un enregistrement exclusif de Piaf qui chante « Non, je ne regrette rien » pour la première fois. Et c'était sur Europe numéro 1.
1960, on de la raconte sur Europe 1.
En 1960, un homme a décidé de transformer le 14 juillet en journée d'angoisse. Il s'appelle Frère Eman et il est messie de la secte du massif du Mont Blanc. La fin du monde aura lieu le 14 juillet 1960 à 13h45. Le monde entier sera inondé par un déluge. Tout ce dérèglement est causé par l'avènement du nucléaire. La Terre se vengera. Seuls 12 millions de personnes seront épargnées dans le monde. Ce millénaire barbu, la petite soixantaine, a eu cette vision céleste 6 ans plus tôt. Mais pas d'inquiétude. Il a tout prévu pour épargner à ses brebis, ses adeptes, la catastrophe. Début juillet 1960, le prophète de malheur et ses adeptes se retrouvent dans un refuge à Courmayeur, dans la vallée d'Aoste, en Italie. Le gourou dit que c'est un lieu élu qui les épargnera.
Au pavillon, dans la maison qui est à côté de là, à côté de la station du téléphérique, il y a les justes, les disciples du docteur Bianca de Milan, qui se fait appeler le frère Eman, et qui ont prédit la fin du monde pour le 14 juillet à 14h45, très exactement. Pas très gentil pour nous, évidemment, puisque c'est le jour de notre fête nationale, mais enfin, il faut en prendre son parti. Dans les journaux, on a annoncé qu'il y avait 10 000 personnes. Je crois qu'on a un peu exagéré. Moi, j'en ai vu tout au plus 5 ou 6. Il paraît qu'il y en a une centaine à l'intérieur de la maison. Je veux bien le croire, et vous avec moi.
Dans la vallée d'Aoste, certains se moquent gentiment de cette bande de bradzingues. Mais en vérité, personne n'est vraiment rassuré. La rédaction d'Europe numéro 1 envoie le jour fatidique un journaliste sur place.
Vous avez entendu le crépitement de la pluie et le tonnerre dans le lointain. Je n'ai pas assisté malheureusement au premier déluge, au déluge de Noé, mais je crois que celui-ci a dû commencer un peu comme aujourd'hui. Il pleut sans arrêt depuis 3 jours sur le Val d'Aoste. Alors, les barques du frère Eman vont-elles servir? C'est ce que je demande à un porte-parole du gouvernement qui a vu passer les barques hier soir au milieu de la foule.
Effectivement, une dizaine de bateaux sont passés à travers la ville d'Aoste. Plusieurs personnes rigolaient, mais d'autre part, plusieurs d'autres avaient un certain signe, symptôme d'inquiétude.
En cette période estivale, les hôtels du Val d'Aoste connaissent habituellement une affluence. Mais jamais comme ce 14 juillet 1960, il n'y a plus aucune chambre de libre.
Courmayeur envahi par des milliers et milliers de touristes, Courmayeur dont les 75 hôtels sont pleins, qui va refuser du monde pour 14 juillet. Ce matin, le directeur du tourisme de la cité a reçu un télégramme
oui,
de Paris.
Effectivement, c'est M. Peraldo qui a reçu un télégramme de Paris par un émigré valdôtain. Et il se félicite pour l'excellente trouvée publicitaire, qui, à son avis, pourrait porter des bénéfices au tourisme
monsieur
local.
M. Peraldo a répondu par télégramme aussi, un télégramme furieux, je crois.
Oui, mais M. Peraldo a dit qu'on n'avait pas besoin de ces initiatives pour faire du tourisme, car la Vallée d'Aoste est assez connue.
Tous ces gens sont là parce qu'ils espèrent profiter de la protection promise par le gourou.
Monsieur, je crois, est membre de la secte, je crois qu'il est chef du groupe de Turin.
Oui.
Et vous-même, monsieur, alors, est-ce que vous allez remonter maintenant au pavillon? Vous allez habiter pendant 3 jours non, encore au pavillon?
J'habite à la Palude, avec le groupe de Turin.
Vous êtes à la Palude, donc le petit village en dessous. Mais est-ce que vous n'allez pas passer le 14 juillet au pavillon avec le frère?
Seulement, pourquoi il n'y a pas de lieux pour...
De place
pour habiter.
Ah, parce que le pavillon est en effet une toute petite maison avec une dizaine de chambres peut-être, et c'est à cause de ça que vous habitez à la Palude avec vos disciples.
J'habite à la Palude en attendant la date de 14 juillet.
Seuls 20 disciples se trouvent en permanence avec Frère Eman. Quelle est votre profession, monsieur?
Je suis employé pour l'agent de... Le tramway, c'est de Turin.
Ah, vous travaillez dans les tramways de Turin. Et vous êtes en vacances ici?
Je suis en permis.
En permis, vous avez demandé une permission?
Jusqu'à le 31 juillet.
Vous avez demandé une permission jusqu'au 31 juillet pour passer donc la fin du monde, ou du moins les événements qui vont se dérouler à Courmayeur, à proximité du frère Eman.
Bon. Oui.
Ici, Henri Stadelhoffen qui vous parlait de Courmayeur, Europe numéro 1.
Ça vous fait sourire? Eh bien, figurez-vous que le 13 juillet au soir, en France, personne n'a fait la fête. Les Français sont restés chez eux. C'est du jamais vu. Tout le monde est suspendu à ce jeudi 14 juillet, 13h45.
Eh bien voilà, il est exactement maintenant 13h45. Et ce que vous entendez derrière, ce sont les trompettes qui célèbrent cette fin du monde qui aurait dû se passer à ce moment précis. Alors pour l'instant, il ne s'est absolument rien passé. Il y a beaucoup de bruit autour de moi, vous l'entendez. La foule est là-bas et le frère Eman et ses disciples sont tous enfermés dans la maison, gardés par les carabiniers.
La trompette n'étant pas celle du jugement dernier, la réaction des curieux qui se trouvaient là a été celle d'un éclat de rire tellement énorme que le prophète désormais faux n'osait pas ressortir. Bandits criaient les uns, bastonnaient et promettaient les autres, tant et si bien que sur les conseils du capitaine des carabiniers et dûment escortés, Eman a déclaré en substance « J'avoue m'être trompé, mais seulement quant à la date. »
Eh oui, la prophétie a capoté. Et heureusement. Et maintenant, place à la bamboche.
Paris bientôt va s'éclairer de feux d'artifice. Les Parisiens vont venir nombreux. Et si hier soir, l'on a dit Paris a boudé tous ses balles, Paris n'est pas sorti dans la rue, eh bien ce soir, je vous assure, c'est le contraire. Tout le monde est dans la rue, tout le monde danse pour ce 14 juillet qui, je crois, a rarement été aussi joyeux.
La fête est d'autant plus mémorable que la fin du monde semblait si proche.
2h du matin, les musiciens sont essoufflés, les danseurs aussi, tous les danseurs. Mais cependant, de temps en temps, ils crient encore, encore. Les balles sont prévues jusqu'à 2h du matin, mais ça continue tout de même. Quelques voitures, des motos, on est venu à ces balles un peu comme on pouvait. Mais non seulement des balles dans la région parisienne, aussi sur les bords de Marne, surtout dans les guinguettes, dans les flonflons. Ce soir, après les feux d'artifice, tout le monde va se coucher. Et ce matin, tout le monde reprendra le travail, avec peut-être la paupière un peu lourde, mais encore dans la tête, mon Dieu, quelques airs du 14 juillet. Comme celui-ci.
Ce 14 juillet 1960, un homme est à la fête. Gaston Dominici, le condamné le plus célèbre des années 50. Accusé d'avoir tué 3 Anglais dans les Alpes de Haute-Provence, le 14 juillet 1960, le général de Gaulle le gracie. Gaston Dominici a alors 83 ans.
Vous êtes content d'être sorti?
Monsieur le Gervais, je suis content, pensez-vous surtout. Quand je n'ai pas coupable, tu peux souffrir comme j'ai souffert, moi. C'est malheureux. Mais quand même, je n'ai pas de regret parce que j'avais affaire avec des gardiens honnêtes et très gentils. Je les remercie. Je lui souhaite une longue chance de bonheur. Et que moi, je me guérisse et je ne les oublierai jamais.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1960.
C'était Chubby Checker avec son tube The Twist en 1960.
1960, on de la traconte sur Europe 1.
Durant l'été 1960, les Français qui partent en vacances restent essentiellement dans l'Hexagone. direction la Méditerranée majoritairement. L'accès au sud-est de la France a été facilité cette année-là par une nouvelle autoroute récemment inaugurée par le ministre des Transports.
Maintenant que le ruban vient d'être coupé, je déclare l'autoroute du Sud ouverte à la circulation.
Dans la foulée de l'inauguration, le ministre annonce une mauvaise nouvelle. Sur cette autoroute, on pourra rouler à 200 km/h toute la semaine, mais le week-end, la vitesse sera limitée. Et ça, en 1960, c'est une révolution.
J'ai repris, et cette fois non plus à titre d'expérience, mais généralisé à l'ensemble du territoire, pendant les week-ends d'été, la formule de la limitation de vitesse. Mais cette fois, ce n'est pas une limitation de vitesse par secteur qui oblige l'automobiliste à se demander s'il est sur un secteur limité ou non. De 6h du matin à 22h du soir, le samedi et le dimanche du 1er avril au 1er octobre, plus naturellement le lundi de Pâques et celui de la Pentecôte, plus Toussaint et Noël, l'automobiliste ne doit en aucun cas dépasser 100 km/h. Comme les poids lourds sont limités dans le même temps à 70 km/h, toutes les possibilités de doubler sont ménagées et 100 km/h est une vitesse telle que l'on ne peut plus prétendre que cela impose une gêne sur les routes dans l'état où elles sont à l'heure actuelle à l'automobiliste.
Durant l'été 1960, la Bretagne est sous les feux de l'actualité, mais absolument pas pour ses eaux cristallines, mais pour un prédateur qui rôde sur ses côtes, le requin.
Nous étions partis chasser le bar et le mulet, la vieille, enfin, comme à l'ordinaire. Les marins nous ont signalé, devant nous, deux pèlerins. Nous avons décidé immédiatement de les attaquer. On avait l'appréhension, c'est certain, mais enfin, on était plutôt gonflés, quoi, mon ami et moi. Et je lui ai tiré de suite une flèche à bout portant, pratiquement à bout portant, 3 mètres, dans la tête, sur le dessus de la tête. Un endroit très dur d'ailleurs, elle a peu pénétré, elle a pénétré d'une vingtaine de centimètres et la bête est partie immédiatement, très rapidement. J'avais équipé la veille, un pressentiment sans doute, un énorme moulinet avec 20 mètres de fil, ce qui m'a permis de la suivre, de garder le contact. Elle m'a tiré comme ça peut-être pendant une centaine de mètres.
Vous imaginez le combat entre le nageur et la bête. Un requin pèlerin, ça mesure 12 mètres de long, pour 4 tonnes. Mais ce chasseur sous-marin est frappadingue. Il a choisi d'en découdre avec le requin pèlerin.
Au bout d'un moment, mon ami qui est revenu à côté de moi a pris à ce moment-là mon fusil. J'ai pris le sien parce qu'il est plus novice que moi. J'ai plongé et j'ai placé une seconde flèche exactement dans l'œil droit. À ce moment-là, la bête s'était débattue énormément, elle nous a encore entraînés. Et on s'est aperçu qu'elle avait été touchée dans un endroit vital car elle avait perdu la notion de l'équilibre. Au lieu de nager normalement, horizontalement, n'est-ce pas ? Elle tanguait comme saoule. J'ai voulu l'achever, mais nous n'avions que deux flèches. Alors la question se posait de récupérer une des deux flèches qui était déjà dans le corps du poisson. La flèche de l'œil, pas question, parce qu'il y avait la mâchoire très impressionnante, ouverte, béante à côté. J'ai choisi l'autre flèche qui était plantée dans le crâne. J'ai replongé. À ce moment-là, j'ai pris la flèche, je me suis arc-bouté avec mes pieds sur le corps de la bestiole. J'ai retiré la flèche, j'ai réarmé rapidement, j'ai replongé, j'ai rasé le fond et à ce moment-là j'ai tiré sous l'aileron gauche, du côté du cœur.
Le chasseur maîtrise le requin et il s'emploie à ramener la bête.
On a crié, on a appelé le bateau. Le bateau nous a acheté un orin, une trentaine de mètres de long. Alors à ce moment-là, j'ai pris un bout de l'orin, n'est-ce pas, dans la main droite, et j'ai plongé. Je me suis mis à colifourchon sur la queue du pèlerin. Nous l'avons amarré au bateau.
Vous ne plongiez pas avec des bouteilles ?
Sans bouteilles, en combinaison étanche, quoi. Et alors, je chassais également avec un fusil normal, c'était un fusil à 100 dos.
Restons en Bretagne. À l'été 1960, c'est aussi une destination touristique. Et face à l'invasion, la préfecture prend une décision. Interdiction d'allumer son transistor sur la plage.
Les Français, et cela se comprend, sont très chatouilleux sur tout ce qui peut limiter leur liberté. Mais il faut se dire que actuellement, bien des gens ne savent pas limiter leur liberté et ils empiètent souvent sur celle des autres. Cette mesure qui est prise dans l'intérêt général permettra à chacun de vivre un petit peu plus replié sur lui-même, ce que les gens des villes n'ont pas toujours l'occasion de faire, leur attention étant toujours prise par toutes sortes de phénomènes extérieurs. Il est bon qu'ils aient le temps de contempler la nature avec tranquillité. C'est donc une nécessité même physiologique.
Oh, vous avez bien compris. moins fort, qu'on puisse apprécier le paysage.
Sur une plage, il y avait une belle fille qui avait peur d'aller prendre son bain. Elle craignait de quitter sa cabine. Elle tremblait de montrer au voisin. Un, deux, trois, elle tremblait de montrer quoi? Son petit itty bitty teeny weeny tout petit petit bikini qu'elle mettait pour la première fois. Un itty bitty teeny weeny tout petit petit bikini, un bikini rouge et jaune à petits pois. Si cette histoire vous amuse, on peut la recommencer. Si c'est pas drôle, je m'excuse.
C'était Dalida avec Itsy Bitsy Petit Bikini.
1960, on de la traconte sur Europe 1.
Côté sport, l'année 1960 est une année olympique. Jeux olympiques d'été à Rome et Jeux olympiques d'hiver à Squaw Valley en Californie. Eh oui, c'est comme ça à l'époque, on fait tout la même année. Et à la fin, le bilan des Français est famélique. Une seule médaille d'or en ski lors de la descente pour Jean Vuarnet.
La course se déroulait surtout sur la fin. En réalité, il fallait surtout glisser à la fin. Et c'était à peu près ce que j'ai fait. J'ai pas bien réussi la première partie, mais surtout le virage du départ. Et le sachant très bien, je me suis efforcé de rattraper ce retard. Et vous voyez, ça a bien marché.
Et ce faisant, le Français marque l'histoire de son sport parce que c'est lui qui invente une position aérodynamique qu'on a appelé la position de l'œuf. Et Jean Vuarnet est le premier médaillé olympique avec des skis métalliques, des rossignols, parce que jusque-là, les skis étaient en bois.
Est-ce qu'il y a un avantage à utiliser des skis métalliques?
Eh bien, actuellement, il y a avantage à utiliser les meilleurs skis du monde, et je pense que ce sont les meilleurs skis du monde, puisque nous n'avons même pas farté ce matin. Aucun d'entre nous n'a farté. Je vais vous dire que les skis sont quand même glissants. Ils tiennent terriblement la route. Alors ça permet évidemment de se tenir en position de recherche de vitesse la plupart du temps.
Je vous l'ai dit, les Jeux Olympiques d'été se déroulent à Rome pour la première fois.
Au nom de tous les concurrents, je jure que nous nous présentons aux Jeux Olympiques en tant que concurrents loyaux, respectueux des règlements qui les régissent et désireux d'y prendre part pour la gloire du sport et l'honneur de nos pays. Et voici maintenant l'exécution de l'hymne italien.
Dans l'épreuve du marathon, un inconnu sur qui personne ne mise une lire, l'Éthiopien Abebe Bikila. Il doit sa participation au jeu au forfait d'un blessé de dernière minute. À cause de la canicule romaine, le marathon se déroule de nuit. Et comme il en a l'habitude, Bikila s'élance pieds nus.
42 km au programme. 42 km qui s'achèveront à la nuit en raison de la chaleur écrasante qui régnait à Rome. À mi-course, le Marocain Radis est porté en tête. Mais dans les derniers kilomètres, un coureur inconnu, un Éthiopien, rejoint Radi et le passe. Devant l'arc de Constantin où se juge l'arrivée, Abebe Bikila remporte le marathon. À Radi, la médaille d'argent et la médaille d'or pour Abebe Bikila qui a couru les 42 kilomètres pieds nus.
Bikila, l'Éthiopien aux pieds nus, franchit la ligne d'arrivée sous l'arc de Constantin. Il est le premier athlète d'Afrique noire médaillé d'or olympique. Et j'ai fouillé dans nos archives et nos grimoires. Aucun reportage sur cette arrivée historique. Mais des années plus tard, Jean-Claude Perrin, l'entraîneur d'athlétisme français, se souvient sur Europe numéro 1 de cette arrivée. Il y était.
Il est noir, il est fin, il est impénétrable. Il a une stature de géant. C'est un Africain. Il a l'habitude de s'entraîner sur les hauts plateaux déjà, à 3000 mètres d'altitude. Et là, dans la nuit, éclairé par des torches, il perce cette nuit. C'est l'Afrique qui perce les Jeux à ce moment-là. Et calmement, il passe la ligne d'arrivée. Il est pieds nus. Les gens sont médusés. Les spectateurs rient, pleurent, tellement c'est prodigieux de le voir gagner, de voir cet homme traverser l'arc de Constantin est un souvenir que je n'oublierai jamais.
En 1960, les amateurs de sport assouvissent leur passion sportive en lisant les comptes rendus sportifs dans les journaux. La radio ne retransmet pas les événements sportifs en direct. Et la télé, c'est pire. Mais le 28 mai 1960, pour la première fois, l'ORTF retransmet la finale de tennis de Roland-Garros. Au commentaire, Georges Decaune, le papa d'Antoine. À la fin du troisième set, alors que le match est très loin d'être fini, quick, on coupe la retransmission.
Alors, est-ce que vous m'entendez dans le car, pour vrai ? Est-ce que je m'entends bien ? Bon, nous sommes en train de demander des directives à Cognac G. Bien entendu, je pense que nous nous sommes tout à fait disposés à rester, mais je pense qu'il y a un tas de programmes qui sont prévus depuis fort longtemps à la direction des, par la direction des programmes qui font que nous serons obligés très certainement de rendre l'antenne de toute façon avant la fin du match. Les paris sont ouverts pour la suite des événements. Je crois que vous connaîtrez le résultat définitif tout à l'heure par la bouche des journalistes sportifs au journal télévisé. Ici, Roland Garros, Radiodiffusion Télévision Française.
Et pour le résultat final, à vous de vous débrouiller. Autre bizarrerie sportive de 1960, le 16 juillet, quand le Tour de France traverse le village de Colombey-les-Deux-Églises, qui honore-t-il ? Eh oui, le plus illustre des enfants du pays, le président de la République.
Et c'est maintenant le peloton emmené par Jean Grazik, maillot vert, et Gastonet, Nencini, maillot jaune, qui va passer devant le général de Gaulle dans quelques instants. Voici M. Jacques Collet, directeur de la course, qui lui aussi s'arrête. Et fait exceptionnel dans ce Tour de France, M. Jacques Collet arrête le peloton. Cela ne s'est jamais vu dans l'histoire d'un Tour de France. Le peloton est arrêté sur le bord de la route. Tous les coureurs retirent leurs casquettes. Gastonet, Nencini, Henri Anglade, André Darrigade, champion du monde. Et le général de Gaulle va peut-être s'avancer vers la voiture. Nous allons essayer de nous avancer également. Émile Toulouse a tendu un micro avec un agra. Il veut pouvoir peut-être enregistrer les paroles du général de Gaulle. Et c'est un fait absolument extraordinaire. Car jamais dans l'histoire du Tour de France, un peloton n'a été arrêté. D'ailleurs, le général de Gaulle maintenant est descendu sur le bord de la route. Il félicite Gastonet Nencini. Il a serré la main du maillot jaune. Il a serré la main d'André Darrigade, champion du monde. Serré la main de Jean Grazik, leader du classement par points. Les coureurs prêts à voir le général de Gaulle, ils remettent leurs casquettes et repartent pour regrouper, bien entendu.
1960, Ondelat raconte sur Europe 1.
En novembre 1960, le Roumain Vintila Horia est élu prix Goncourt pour son livre « Dieu est né en exil », qui est une réécriture du journal intime d'un poète latin sous l'Empire romain qui s'appelait Ovide. Dès l'annonce du lauréat, plusieurs journaux, dont l'Humanité, révèlent le passé de sympathisants nazis de l'écrivain. Alors l'Académie Goncourt éteint l'incendie en précisant qu'elle a enquêté et qu'il n'a rien commis de répréhensible, juste une fascination peut-être un peu gênante. Philippe Heria, membre de l'Académie, s'explique sur Europe numéro 1.
Il y avait donc, à partir de ce moment-là, il n'y avait donc lieu de considérer que la valeur littéraire de l'ouvrage. Le livre, de toute évidence, n'était, lui, animé d'aucune tendance, sinon une tendance catholique. Inutile de vous dire que cette tendance catholique ne nous gênait pas.
Vintila Horia a laissé entendre qu'il ne viendrait pas recevoir son prix.
Je n'en sais rien, il fera ce qu'il voudra. En tout cas, s'il ne vient pas, il ne sera pas le premier, puisque l'année dernière, si André Schwarzbart est venu recueillir le prix, il a été le premier à le faire. Nul n'est forcé à venir et il est très possible que dans l'avenir, d'autres lauréats, soit par caractère, soit par convenance personnelle, préfèrent recevoir ce petit chèque par la poste.
Un sympathisant nazi lauréat du Goncourt, la polémique est énorme. D'autant qu'en 1960, le nazi Adolf Eichmann vient d'être arrêté. Mais pour Hervé Bazin, l'auteur célèbre de « Vipère au poing », on ne peut pas remettre en cause la décision de l'Académie. Le fameux « il faut séparer l'homme de l'artiste ».
Il est indiscutablement certain que cette histoire est fâcheuse. Mais dans la mesure où elle prouve que l'Académie est totalement indépendante des pressions extérieures, quelles qu'elles soient, et particulièrement des politiques, et qu'elle se décide justement uniquement sur les valeurs littéraires, à ce moment-là, ce n'est pas fâché.
Mais au sein même de l'Académie Goncourt, tout le monde n'est pas d'accord avec cette décision. Pour Armand Salarcroux, c'est un choix démentiel.
Est-ce que vous pensez qu'on devrait refaire le prix Goncourt à cause de ces événements ? Est-ce qu'il faut le remettre en question ?
C'est extrêmement simple. Je n'ai pas voté pour rien. Et si j'avais voté pour lui, je sais bien ce que je dirais. Mais je ne dirais certainement pas ce que disent, ou d'après les journaux, ceux qui ont voté pour lui. C'est une position que je trouve démentielle. Elle consiste à dire, nous avons pris nos renseignements. Les renseignements étaient bons. Nous avons donc voté pour lui. Si les renseignements avaient été mauvais, nous n'aurions pas voté pour lui. Mais comme nous avons voté pour lui, eh ben tant pis pour les renseignements. Je trouve ça, je vous le répète, démentiel.
10 jours plus tard, pour éteindre l'incendie, le lauréat envoie une lettre au président de l'Académie Goncourt.
Au cours de l'Assemblée Générale, le président a donné lecture d'une lettre de M. Vintila Oria, lauréat de 1960, déclarant renoncer au prix Goncourt dans une volonté d'apaisement. Dans la même volonté d'apaisement, et cette renonciation étant intervenue entre le vote préparatoire et la déclaration officielle du lauréat, l'Académie Goncourt décide à l'unanimité de ne pas décerner de prix en 1960.
L'année 1960.
You can dance every dance with the guy who gives you the eye to let him hold you tight. You can smile every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Say the last dance for me. Say the last dance for me.
C'était The Drifters avec Save the Last Dance for Me.
1960, on de la raconte sur Europe 1.
Fin novembre 1960, Europe numéro 1 organise une grande émission autour de la chanteuse Édith Piaf. Elle sort d'une année de maladie et elle fait la promotion de son futur tour de chant. La soirée s'appelle Piaf et ses amis. Et j'ai ressorti les enregistrements de cette soirée. Et ça vaut le coup. Par exemple, voilà le premier invité de la MOM, un poète. Bien sûr.
Bonsoir, ce soir je vous présente Jacques Prévert. J'ai connu Jacques Prévert fin 39, quand la guerre était déclarée, chez Agnès Capri. Et une amie à moi qui s'appelait Christiane Néré m'a fredonné une chanson « Embrasse-moi » sur une musique de Valberg. Et j'ai tellement été emballée que le lendemain, je me suis arrangé pour avoir la chanson. Je crois bien que je l'ai chantée le lendemain soir.
C'est assez étrange cette rencontre, Jacques Prévert, parce que, enfin, à cette époque-là, le moins qu'on puisse dire est que vous étiez tout de même un poète confidentiel, enfin, connu d'un cercle très restreint.
Oui.
Vous n'aviez rien publié.
Non, je n'y pensais pas même à publier. Ce n'est pas une chose qui m'intéressait beaucoup, au contraire.
C'est dans un quartier de la ville lumière où il fait toujours noir, où il n'y a jamais d'air. Et l'hiver comme l'été là, c'est toujours l'hiver. Elle était dans l'escalier, lui à côté d'elle, elle à côté de lui. C'était la nuit. Et elle lui disait, ici il fait noir, il n'y a pas d'air, et l'hiver comme l'été, c'est toujours. pour l'hiver. Le soleil du bon Dieu ne brille pas de notre côté. Il a bien trop à faire dans les riches quartiers. Serre-moi dans tes bras, embrasse-moi, embrasse-moi longtemps, embrasse-moi. Plus tard, il sera trop tard. Notre vie, c'est maintenant. Embrasse-moi.
Une chanson qui, pour vous, évoquait une certaine forme de Paris, un certain visage de Paris, un Paris oui, un peu pittoresque. Et...
le plus joli, plus vrai, la rue. C'est d'ailleurs dans la rue où j'ai certainement rencontré Edith Piaf, quand elle était chanteuse, dans la rue. Mais j'ai rencontré, mais je ne l'ai pas reconnue puisque je ne la connaissais pas. Après, elle est devenue Edith Piaf, mais je l'aimais bien dans la rue, comme beaucoup d'autres chanteuses des rues. Et aujourd'hui, il n'y en a plus dans la rue.
Bah, vous savez que la préfecture de police l'interdit maintenant.
La préfecture de police interdit beaucoup de choses. De plus en plus. De plus en plus intelligemment. Et certains, si on comptait sur les gardiens de la paix pour battre la mesure, ce serait une série de bâtons.
Au cours de l'émission qui lui est consacrée, Edith Piaf reçoit aussi sa grande confidente, la comédienne Suzanne Flon. Et les deux amis badinent à l'antenne. Le présentateur a bien du mal à rester sérieux.
Ce soir, je vais vous présenter une grande amie à moi, Suzanne Flon.
Je vous arrête tout de suite, Edith Piaf, car depuis le début de cette émission, nous présentons des compositeurs, des paroliers. Or, je cherche vraiment pourquoi vous nous présentez ce soir Suzanne Flon, qui n'a écrit aucune chanson, qui n'écrit pas de musique.
Mais parce que Suzanne, dans le temps, a fait de la contrebasse.
De la contrebande.
Basse. De la contrebasse.
De toute manière, nous pouvons en parler maintenant. Il y a prescription, Suzanne Flon.
De toute façon, je vois pas ce que ça a à voir avec les paroles. Et les...
Mais justement, il faut bien dire comment on s'est connus. Moi, j'étais avec un contrebandier, elle aussi. Ah
non, je pensais que l'un au moins d'entre vous aurait été avec un douanier.
Ah non, non, surtout pas. Nous aimons les hors-la-loi, nous.
Edith Piaf et Suzanne Flon s'entendent comme larrons en foire. Parce que Suzanne était la secrétaire d'Edith à ses débuts.
Qu'est-ce que vous tapiez à la machine des
chansons
des paroles? Oui, bien sûr.
Je crois que c'était plutôt Rémoiseau qui les tapait, quoi. Elle faisait un effort, elle tapait bien au moins deux lignes.
Les deux premières ou les deux dernières? C'est-à-dire, oh, non, la première et la dernière.
Les deux premières, on m'arrêtait
tout de suite. Ce qui lui...
Non, arrêtez.
Non, la première et la dernière, et lui, il faisait le remplissage.
Oh, ben, je crois qu'il faisait tout, même la cuisine.
Il faisait vraiment la cuisine?
Il faisait très bien la cuisine, les spaghettis particulièrement.
Oui, c'est pas difficile N'est-ce à pas faire, vous me direz.
On en mangeait souvent.
Est-ce que vous tapiez quelquefois des réponses à ces lettres d'admirateurs?
Oui, oui, oui.
Ah, c'est ça, on n'a jamais
il
parlé.
Il n'y en avait pas l'air à l'époque.
Il y en
avait...
Ah,
tu crois?
Oui.
Non, j'essaie de cerner un peu votre travail de secrétaire.
Mais mon travail de secrétaire, il consistait surtout à s'amuser entre nous. Nous rions beaucoup. Mais
on riait beaucoup, vous savez.
Nous sommes ce que nous sommes en ce moment.
On sortait de l'école.
Oui, nous étions très jeunes.
C'est vrai, on sortait... Quoi, tu te souviens? À la maternelle, quoi.
Et au milieu de ces badineries, un trésor, un moment rare.
On peut dire, Suzanne Flon, que vous connaissez tout le répertoire d'Edith Piaf, et naturellement, on peut supposer que vous connaissez tous ses auteurs, tous ses compositeurs.
Presque tous, presque.
Ah, il y en a un que tu ne connais pas, c'est Charles Dumont.
Ah non ?
Qui vient de m'écrire une chanson magnifique, que je vais d'ailleurs appris tout de suite, que je vais enregistrer très rapidement et que je mets à mon tour à l'Olympia, qui pourtant a été complet, et qui s'appelle... Je ne regrette rien. Les paroles sont de Michel Vauquer. Et si tu veux, je vais te la chanter.
Ah oui.
C'est la première fois, au fond, que je la chante. Ni le mal
allumer le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balancer les amours et tout leur trémolo, balancer pour toujours, je repars à zéro.
C'était Édith Piaf dans les studios d'Europe numéro 1 en novembre 1960 qui interprétait pour la première fois « Non, je ne regrette rien ». Un mois plus tard, à la fin de l'année 1960, elle dévoilera cette chanson sur la scène de l'Olympia dans une série de concerts qui sauveront la célèbre salle de la faillite. C'est avec cette immense chanteuse que s'achève ce troisième épisode. Merci à mes comparses, Guillaume Maury, Julien Pichenet et Guillaume Vassot. Merci aussi à l'équipe de Sylvain Denis aux archives. La suite de notre visite privée de l'année 1960 dans le quatrième épisode d'Ondelat raconte une année.
Retrouvez Ondelat raconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.